présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.
Qui est venu me voir.
Une fois sorti du restaurant, il lui dit : Je vous raccompagne ? Non, pas la peine, je vais rentrer toute seule. Merci. Elle l'embrasse et s'en va. Il décide, c'est de la suivre. Il la suit. Il la suit de loin pour qu'elle ne le voie pas, pour que cela ne la fâche pas. Elle marche dans les rues d'un bon pas. Puis, petit à petit, son pas devient plus hésitant. Elle marche dans les rues. Elle prend des rouelles. Il la suit, mais en faisant attention de ne pas trop faire de bruit pour qu'elle ne se retourne pas. Ses pas résonnent sur le sol. Sol de rue étroite. Il se demande où elle va. La voir entrer dans un passage de vieille maison lugubre. Il y va, mais hésite à rentrer. Puis, entre. Le passage est noir. Il y a un plafond en rond, pas trop haut. Le passage donne un jardin en friche. Le jardin est entouré d'un mur qui n'est pas très grand. Se trouve dans le jardin une vieille fontaine très belle de style Louis XV. La pierre est devenue poreuse. Elle n'a plus d'eau et par endroits il y a de la mousse. Mais ça lui donne un genre encore plus beau. La fontaine, par elle-même, a un socle en forme de coquille. Une niche avec l'arrivée d'eau et au-dessus la statue d'une femme. Nue, debout, très belle. C'est la pleine lune et la fontaine est illuminée par les rayons de la lune. Philippe est ébloui par la statue de la fontaine. Il s'avance en se faufilant au milieu des friches. Et en s'approchant, il s'aperçoit que la statue ressemble à Nadine. Cela le trouble encore plus. Essaye de voir s'il n'y a pas d'inscription. Et voit derrière la statue un socle où est inscrit « Déesse des sept soleils ». Il se dit « Cela ne veut rien dire ». Puis, tout d'un coup, il se souvient de Nadine qui est entrée ici. Où est-elle ? Il tourne autour du jardin, tout est clos, par la moindre porte. Où sortir ? Regarde bien dans les broussailles si elle ne s'était pas allongée, mais rien. Il n'a pas pu sauter le mur. Il est trop haut. Alors, rien. Un chat vient de me miauler. C'est ce qu'il a fait sursauter. Milou, Milou. Mais il ne voit pas où il est. regarde bien encore la statue de la femme. Et à force de la fixer, elle éclaire d'une lumière blanche dans un décor noir. Il a l'impression qu'elle s'avance vers lui, recule, manque de tomber à cause d'une racine. Il se redresse en reculant et sort du jardin. Une fois dehors, il se demande pourquoi il a eu peur. Et où est passée Nadine ? Où est-elle passée ? Il y retourne le lendemain matin. La maison du passage est délabrée et semble inhabitée. Le jardin, plus petit que de nuit. Mais la statue est là, majestueuse. Il regarde bien et voit encore aucune sortie, à part celle du passage. Il demande à des gens qui passent dans la rue des renseignements sur le jardin. Les gens ne savent pas. Ils disent que c'est une maison qui va être démolie, que cela fait longtemps qu'elle est inhabitée. Il abandonne ses recherches. Il se dit que peut-être que Nadine était dans le jardin et qu'il ne l'a pas vue, ou qu'elle était dans le passage. Quant à la statue, que c'est peut-être un hasard. Pour le moment, il ne peut rien dire de plus.
fois arrivé chez ses parents. Et dans sa chambre. Il se souvient de l'inscription sur le socle. Pour ne pas l'oublier, il le marque sur un papier. Les jours passent et pas de nouvelles de Nadine. Elle ne lui a pas donné un numéro de téléphone, alors il ne peut qu'attendre. Souvent, en fin de journée, il va au jardin. Quelque chose l'attire. Peut-être est-ce le côté un peu hors du temps. Et puis cette fontaine avec ses statues. Qui va très bien avec le décor. Il a l'impression d'être dans un jardin d'une vieille demeure romaine. La statue est très belle et elle ressemble vraiment à Nadine. Il reste un moment à tourner autour de la statue, à toucher la pierre qui est rugueuse et spongieuse. Puis, s'en retourne. Le passage est laissé ouvert. Mais dans le passage, l'ouverture qui donne à l'allée de la maison a été fermée, murée. Les jours passent. Pris de curiosité, il décide d'aller à la taverne. L'après-midi, il y va. Retrouve la route qui monte et l'endroit où est la maison au fond d'un parc. L'endroit est désert, au milieu des champs. Pas très loin se trouve, sur la route, l'entrée d'un cimetière. Sorti de voiture pour voir la maison. Il voit que le portail est rouillé, que la maison au jour semble délabrée et même abandonnée. Ça lui fait un drôle d'effet. Le jardin est lui aussi laissé à l'abandon. Les volets des fenêtres sont fermés. Il se dit que personne ne doit habiter là depuis longtemps. Il s'en retourne tristement. Il se dit, elle a fait semblant d'habiter ici. Elle ne veut pas que l'on sache où elle est. Pourquoi me donner de tels rendez-vous? Que veut-elle? De l'argent? Si c'était ça, elle chercherait une personne plus fortunée que moi. Et puis, elle m'a souvent invité à dîner. Alors, peut-être ce n'est pas moi qu'elle cherche. Mais elle cherche à avoir Galien, l'homme le plus riche du monde, comme elle dit. Elle s'imagine que je vais le lui présenter. À moins qu'elle cherche à entrer dans notre famille pour avoir elle aussi une partie de la fortune de Galien, qui est inabordable, inapprochable. Elle veut se servir de moi. Mais non, cela est absurde. Elle cherche à avoir plus d'intimité avec moi. Elle ne cherche pas à s'enfuir et à se cacher. Et peut-être une folle, une déséquilibrée, une malade à cause de l'accident de sa famille. Elle a dû assister à cette chose car elle parle de sang. Elle a dû tout perdre et perdre la raison. Peut-être a-t-elle peur des gens maintenant. Mais non, elle ne me téléphonerait pas de temps en temps. Alors quoi? Mystère. Et si je la vois, est-ce que je dois lui parler de ce jardin? Non, parce qu'elle saurait que j'ai suivi. Cela la mettrait peut-être en colère. Arrivé chez ses parents, il garde la voiture dans le garage et entre chez lui. Enfin, chez ses parents, quoi. Les jours passent.
Moi, Nadine. Vous allez bien? Oui, bonjour Nadine. Je vais bien, merci. Et vous? Moi aussi, mais j'ai un peu de migraine.
Il lui dit, c'est sûrement le temps. Elle lui dit, si vous voulez, on peut se voir ce soir. Oui, je veux bien. Où? Elle lui dit, nous pourrions aller au restaurant et même avant, aller sans le Molière. Il y a un concert de musique de chambre. Cela nous reposera. Il lui dit, oui, je veux bien pour les deux. Nous voyons quand et à quelle heure. Elle lui dit, devant la salle Molière à 20h30. Il lui dit, pour le restaurant, après, ce ne sera pas trop tard. Elle lui dit, non, parce que j'ai réservé avant. Et puis, c'est un petit restaurant, pas bien loin, la Tablée. Alors, ça vous va? Il lui dit, parfait. Alors à ce soir, sa Molière. Oui, à ce soir. Le soir, il l'attend devant la salle Molière. Après 5 minutes d'attente, elle arrive en robe rouge, ce qui la change, c'est moins irréel. Elle lui dit « Je m'excuse pour le retard, mais il a fallu que j'aille au restaurant réserver les repas. J'ai pas réussi à les avoir au téléphone. Il faut entrer, le concert va bientôt commencer dans 3 minutes. » Vite, ils entrent dans la salle qui est à moitié pleine. La musique de chambre est une musique particulière, très intime et qui plaît qu'à un petit nombre. Après le concert, où Philippe s'est un peu ennuyé, la musique était assez monotone et triste. Les morceaux se ressemblaient beaucoup. En sortant, elle lui demande « Ça vous a plu ?»« Oui, beaucoup. » Le violoncelle était excellent et d'une pureté de son. En réalité, c'est un des instruments qu'il déteste. Il ne supporte pas son son. Un son grinçant, cassant, lourd et qui se veut léger. Ça lui tape sur les nerfs. Mais il ne pouvait pas le lui dire, ça l'aurait attristé. Elle a dû aimer ça. Il paraît que le violoncelle plaît beaucoup aux femmes. Le son leur entre dans le corps et c'est soi-disant, ça les fait jouir. Pour elles, c'est un son sexuel très fort. Mais pour l'homme, et c'est pour la plupart, très ennuyeux. Bien sûr, c'est des on-dit, car beaucoup d'hommes en jouent et beaucoup de femmes ne supportent pas la musique de chambre. Alors, c'est sûrement une question de sensibilité. Une fois dehors, ils sont allés directement au restaurant. On leur a montré une table à 2 couverts. Un homme, grand, sec, à cheveux et moustaches noires, habillé d'une chemise blanche et d'un pantalon noir, les sert. Ils ont pris de la soupe d'oignon, de la morue, un plat de gratin de pommes de terre, du fromage et une tarte aux pommes. Durant le repas, lui cherchait à savoir ce qu'elle cachait. Elle semblait préoccupée. Ils n'ont fait que de parler de banalités qui n'ont aucun intérêt et dont je n'ai pas besoin de vous dire. Après le repas, ils sont sortis. Son marquiché s'enconne leur pas et lui a dit « Je vous remercie pour cette charmante soirée. » Elle lui dit « Mais la soirée n'est pas finie. Si vous voulez, vous pouvez me raccompagner chez moi. » Et surpris, elle lui dit « Oui, je veux bien. Ma voiture est sur les quais. Ils y vont. » Il se dit « Elle est venue à pied, en car. Et comme il n'y a plus de moyens pour rentrer chez elle, elle veut que je la raccompagne. » Arrivé vers la voiture, il la fait rentrer. La nuit est douce, il est 00h30. Il roule en silence. Elle semble calme. Arrivé devant le portail de la maison, il lui dit « Voilà, vous êtes arrivé. » Elle lui dit « Merci. » Lui sourit, il lui dit « Vous voulez rentrer un moment, Bois Revers ?» Il est surpris et la curiosité de voir la maison lui fait dire « Oui, je veux bien. » Ils sortent de voiture et elle va ouvrir le portail avec une clé. Ils entrent, elle ferme le portail. Il la suit, longe l'allée jusqu'à la maison. Arrivé vers la maison, qui lui paraît plus de près, plus grande, plus majestueuse. Elle monte deux marches qui donnent sur une immense terrasse qui va jusqu'à l'entrée de la maison et semble faire le tour de la maison. Cette terrasse, en plus des marches, est délimitée par une rampe de pierre et à chaque coin par de gros pots de fleurs en pierre, ce qui rend la maison majestueuse. Il lui dit « Vous avez une très jolie maison. » Elle lui dit « C'est un de mes ancêtres qui l'a fait construire. » Elle ouvre la porte de la maison, qui est une grande porte à deux battants. Éclair. Entrez. Il entre. Et elle ferme la porte. Hall d'entrée, grand escalier de pierre. Mais il voit que les marches sont usées, et même très usées. Il y a des toiles d'araignée un peu partout. Nous allons au salon. Il la suit. Elle monte les escaliers. À l'étage, un couloir.
elle est claire. Les murs ont de la peinture craquelée. Ça sent le renfermé.
Elle ouvre une porte, éclaire. Entrez, il entre. C'est une grande pièce qui doit être le salon. Les meubles sont recouverts de housses. Ça sent encore plus se renfermer. Elle retire les housses à des chaises. Elle lui dit, asseyez-vous, s'assoit. Elle lui demande, vous désirez boire quelque chose? Bourbon, Bordeaux, un bourbon. Elle sort pour aller chercher la boisson. Elle revient. Avec un verre et une bouteille, elle va déposer sur la table basse. Et serre. Ensuite, elle s'assoit en face de lui.
Après avoir bu, il lui dit « C'est pas trop triste d'habiter une grande maison comme celle-là, toute seule ?» Elle lui répond « Oui, bien sûr. Surtout que j'y ai mes souvenirs et des souvenirs pas très drôles. C'est ici que ma famille est morte. Je croyais que c'était dans un accident de voiture. Non, ils ont été tués à coups de hache. » Philippe est surpris, il lui dit « C'est horrible. Comment ça s'est passé ? » Elle lui dit, comme on fait d'habitude dans ce genre de choses. Il se dit, elle ne veut sûrement pas en parler, n'insistons pas. Elle lui dit, terminez votre verre, j'aimerais pas me coucher trop tard. Il lui dit, oui, bien sûr. Elle lui dit, je vous dis ça, mais ce n'est pas pour que vous croyiez. Je ne veux pas que vous partiez. Il fait, ah, oui. Vous êtes très gentil, j'ai besoin de gentillesse. Termine son verre. Elle se lève et lui dit, venez, nous serons mieux dans ma chambre. Il se lève et il la suit. Ils sortent du salon. Longe ce couloir. Ouvre une porte, éclaire, entrez, il entre. C'est une chambre meublée Louis XV avec un grand lit à deux places. Ils sont tous deux au milieu de la pièce. Elle lui dit, c'est la seule pièce qui soit nette. Elle la tire à elle. Et lui dit, n'ayez pas peur, aimez-moi. Et elle l'embrasse. Il est pris par son parfum, la douceur de sa peau, ses mains lui caressent ses cheveux. Il sent ses seins. Tout en continuant à l'embrasser, elle l'attire vers le lit et se couche en l'accompagnant dans sa chute. Alors, Il est pris de vertige. Il la déshabille. Leur union a été éclatante. C'est la première fois que Philippe a ressenti un tel plaisir, une telle force. Ils se sont endormis d'un sommeil doux. Des cris, des hurlements, du bruit. Il a vu du rouge qui éclabousse son visage, ses yeux. Il a vu une hache ensanglantée. Puis, elle tape sur des corps dans un lit. Les draps sont rouges, les corps sont rouges. Chaque fois que la hache tape, le sang gicle. Il y a des corps d'enfants, d'adultes. Ça crie, ça hurle, entre dans la chair, ouvre la peau, le sang gicle, des visages horrifiés, des yeux qui sortent de la tête, des cheveux mouillés, pleins de sang, des chemises de nuit tachées de rouge, la hache dessus, des coups, c'est terrible. Philippe en a des sueurs. Il aimerait ne plus voir ceci, mais il ne peut pas. Il aimerait se sauver, mais il ne peut pas. Cette main qui tient la hache. À qui est cette main? Tout ce sang, tous ces gens qui crient, qui sont blessés, et même... qui crient. Ont la bouche pleine de sang, ultra rougie, c'est horrible. Et lui, Philippe, se demande ce qu'il fait au milieu de tout ça. Que peut-être la hache va tomber sur lui. Ça lui fait peur. Il se met à crier. Non! Il se réveille d'un coup. Du blanc. C'est la lumière du jour. Des draps blancs. Il se souvient qu'il est chez Nadine, qu'il a passé la nuit chez elle. Il n'a fait qu'un rêve, un mauvais rêve. Il est heureux de se retrouver dans des draps immaculés. Il se retourne et voit qu'elle n'est pas à ses côtés ni dans la chambre. Il se dit qu'elle doit être levée et peut-être en train de préparer le petit déjeuner. Il décide de se lever. Il voit que les vêtements de Nadine sont sur une chaise. Elle a dû rester en chemise de nuit. Il prend les vêtements de Nadine, les range. Prend les siens et s'habille. Après s'être habillé, il décide de sortir de la chambre pour aller à sa rencontre. Long de couloir, voit la porte du salon ouverte, jette un coup d'œil, il n'y a personne. Descend les escaliers. La cuisine, elle voit qu'elle est vide. Elle est dans un tel état de délabrement que l'on voit bien que personne n'y est allé depuis très longtemps. Cherche Nadine, se dit qu'elle est peut-être au cellier. Va ouvrir la porte qui mène à la cave. Nadine! Nadine, pas de réponse. Décide de remonter à l'étage. Regarde au salon, personne. Sans la manger, personne. Chambre, personne. Bureau, personne. Salle de bain, personne. Pas de Nadine. Peut-être est-elle sortie faire des courses. Il décide d'aller s'asseoir au salon et de l'attendre. Il attend une demi-heure. Pas de Nadine. Il se demande où elle a dû aller. Il commence à avoir faim. J'attends encore un quart d'heure et je pars. Elle a peut-être dû partir sans me réveiller. Un quart d'heure plus tard, il décide de partir.
Avant de s'en aller, il décide d'aller au bureau pour prendre une feuille de papier et lui dire qu'il a attendu jusqu'à maintenant, et comme elle n'est pas revenue, ben, il s'en va. Une fois qu'il a écrit, il va déposer la feuille de papier, bien en évidence, sur le lit.
Mais avant de partir, il décide de jeter un coup d'œil au parc. On ne sait jamais. Il fait le tour du parc, mais ne la trouve pas. Voit, dans un angle du parc, derrière la maison, une miniature de la fontaine qu'il avait vue dans le jardin abandonné. Et derrière, sur le plateau, marqué « Les sept soleils ». La statue est la même, mais en plus petit. Étrange. Qu'est-ce que ça veut dire ? Puis se dirige vers la sortie du parc. Et en marchant, ses pieds heurtent quelque chose. Se penche et voit que c'est une hache souillée. Cela lui rappelle son rêve. Il se sent bizarre. Et tout chose. Vite, il sort du parc pour entrer dans sa voiture. Et il roule, roule, mais se sent bizarre. Arrivé chez ses parents, il va à la cuisine pour prendre son petit déjeuner.
puis il monte à sa chambre pour aller se coucher. Il s'endort de suite. Mais ses rêves sont troublés par le visage de Nadine, sa maison et cette statue. Cette statue. Il se réveille à 13h et prend sa douche. Mange un bon morceau. Il décide d'aller chez Nadine pour voir si elle est de retour. Il ne sait pas pourquoi, mais il se sent inquiet pour elle. Sa voiture. Arrivé à la maison, qui semble tout aussi abandonnée, il tire le coulisseau pour la cloche. Pas de réponse. Pousse le portail et entre. Sonne à la porte. Pas de réponse. Il entre. Nadine, c'est moi, Philippe. Vous êtes là ?